Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour Francine.
Bonjour Yvan.
Bonjour Mathieu.
Bon matin. Bonjour, je veux dire.
Oui, moi j'aime ça bon matin,
moi
mais
aussi.
Je vais garder ça pour moi. Parce que...
Je fais des clins d'œil aux gens qui nous écoutent.
Je le sais que c'est un anglicisme, mais moi j'ai vécu dans l'Outaouais, puis mes amis ils me disaient toujours « Good morning Yvan », alors c'était ma façon de répondre.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un « Morning Man » à Radio-Canada qui utilisait ce « bon matin ».
Ah, qui? Ah.
René Aumirois.
Oui.
René Aumirois. Alors,
comme disent les Chinois, justement.
Il disait comme disent les Chinois. Non, dans ce cas-là, il l'assumait pleinement.
Ben, moi, j'aime ça, bon matin. Mais ce matin, c'était revigorant, hein?
Mais c'est un bon matin, justement, parce que, je veux dire, on est là, puis on n'est pas endormi.
On n'est pas endormi, ça, c'est sûr.
On est peut-être encore pas complètement dégelé, mais ça va venir, ça va venir.
Il faisait tellement beau. La lumière était belle. Et Mathieu, qui avait marché de chez vous jusqu'ici, vous avez fait presque vos 5000 pas. Comment vous avez trouvé votre marche?
Très agréable.
Très agréable.
Oui, oui. Quand on est bien habillé.
Oui.
J'ai la chance d'avoir un bon manteau, des aliments, non. Des aliments dans le ventre, oui, mais des vêtements pour me protéger, voilà. J'ai apprécié ma marche.
Et Francine, votre marche, vous aussi, vous
marchez? Oh, c'était bien. Cependant, il faut dire que Mathieu, lui, il descendait du nord vers le sud.
Oui.
Donc, avec le vent dans le dos, comme on dit.
Ben, il vient de l'est, lui. Hein.
Le vent tourne à Montréal, il y a des corridors de vent, mais vous avez raison, j'avais le derrière du corps un
oui,
peu plus frais.
Oui, le derrière frais, alors que moi, j'avais le frontal frais.
Oui.
Oui, oui. Je dois monter la côte. Hein. À un moment donné, je n'ai pas le choix.
Oui.
Je demeure pas tellement loin du fleuve et je dois monter la côte. Et je vous avoue que ce matin, c'était un exploit.
Mais vous m'avez surtout parlé de vos attentes au coin des rues.
C'est-à-dire que ce matin, il y a beaucoup, beaucoup de trafic. Je ne sais trop. Il doit y avoir des problèmes quelque part. Mmh. Et il y a des policiers qui font la circulation. Puis ils font la circulation, je vous dirais... C'est toujours en fonction d'éviter qu'il y ait trop de refoulement du côté du trafic routier avec les voitures.
Oui, je comprends.
C'est les piétons ce matin. Moi, j'aurais demandé un traitement de faveur ce matin.
Coin.
J'aurais demandé un traitement de faveur, c'est-à-dire plus de temps pour les passages piétons.
D'accord. Voilà. C'est noté, c'est dit en onde. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer. Vous nous direz ça la semaine prochaine.
On verra au retour.
C'est une superbe température pour le lancement d'Igloo Fest aujourd'hui. Alors, la Ville de Montréal a bien organisé ses choses. Ça va bien. Mais qu'est-ce qui a retenu votre attention, Francine, cette semaine?
Il y a beaucoup de choses qui ont retenu mon attention cette semaine, mais je ne vous en parlerai pas, Yvan. Puisque ce matin, il y a vraiment une qui m'a... Ouf!
Oui, hein?
L'étoile qu'on ne voit plus briller, c'est dans le Devoir. Mm-hmm. C'est un article de Sébastien Tanguay et il fait référence à Alice Roby, dont on fête le centenaire aujourd'hui.
Oui, ça a arrêté.
Mais c'est pas vrai qu'on le fête parce que c'est un anniversaire qui est accueilli dans l'indifférence la plus totale au Québec. Ni sa ville natale, ni le gouvernement québécois soulignent ce siècle de naissance de la superstar. Pourtant, elle a été quand même une immense vedette. Hein? On se rappelle, elle n'avait pas d'éducation et malgré tout, elle a réussi à atteindre le panthéon de la chanson. Elle a côtoyé des Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean Martin, Nat King Cole. C'est pas rien, comme on dit en bon québécois. Elle est effectivement partie de rien. Elle a atteint le zénith, même avant que le concours de Véronique Cloutier se conclut, n'est-ce pas?
Okay,
puisqu'il y a une émission à Radio-Canada qui parle du zénith. C'était Hollywood, hein, à ce moment-là, c'était la gloire planétaire et elle était là. Elle avait des tubes à la radio, évidemment, mais on la jouait à Rio, on la jouait à Londres, bien avant Céline Dion.
Mm-hmm, c'était Céline avant Céline.
Oui, et évidemment, il s'est passé quelque chose de tragique et c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné... On a tendance à l'oublier un peu. Elle a fait un AVC et elle est revenue faire sa convalescence ici. Il y a eu un drame familial aussi, la mort de son petit frère. Et ça a suivi... Ça a été suivi par une très sévère dépression. Et après ça, bon, on le sait, là, il y a eu des films qui ont relaté cette période. On parlait à l'époque pour comme moyen de guérison d'électrochoc, lobotomie. Et après, elle était devenue la folle. Et comme elle était devenue la folle, c'est entre guillemets dans le texte, mais c'est un peu ce qu'on disait. Elle n'était plus une diva, donc on l'a un peu oubliée.
Oui. Et on fait mention dans cet article-là, c'est dans le Devoir de ce matin, des différences de la façon dont on reconnaît la part des hommes et des femmes au Québec en particulier. Mais on peut voir que dans d'autres pays, c'est la même chose. Et on fait la différence entre Olivier Guimond, qui a déjà été un de ses...
Compagnons
proches, oui.
Très proches.
Et elle... Olivier Guimond est reconnu à plusieurs endroits par des parcs, par des rues, autres. Et Alice Roby, très peu. Elle est son nom est sur quelques parcs, mais très peu, très, très peu.
Mais ce matin, quand on en parlait, je vous parlais de Michelle Obama dans son livre qui dit qu'il y a 6%, n'est-ce pas, de femmes qui sont l'objet de monuments aux États-Unis. C'est rapporté aussi dans Le Devoir, dans la chronique de Joe Blow.
De Joe Blow. D'accord. Et juste pour mettre les choses en perspective, il y a 52% de femmes qui sont sur cette planète. Alors, c'est des comparaisons qui donnent un petit peu le frisson.
Et vous, votre fait saillant?
Moi, mon fait saillant, c'est qu'après en avoir parlé deux fois à ce micro, je suis allé voir le film Women Talking, toujours sur le thème des femmes.
C'est comme une série, là, hein? Vous êtes en train de créer avec ça?
Oui, mais c'est la dernière. C'est une trilogie.
J'espère que ça se conclut bien.
Oui, ça se conclut vraiment très bien. C'est un très, très, très bon film. C'est pas un film d'action. N'allez pas penser qu'il y a des cascades et tout. Mais c'est une dizaine de femmes. Ça ressemble à 12 hommes en colère, hein, en fait. Mais c'est une dizaine de femmes qui se réunissent dans une grange parce que les femmes de cette communauté-là ont subi des sévices. Et elles remettent en question leur existence dans cette communauté-là. Est-ce qu'elles vont pardonner aux hommes? Est-ce qu'elles vont rester dans la communauté et se battre? Ou est-ce qu'elles vont partir? C'est les trois possibilités. Et c'est un excellent film. Vraiment, ils remettent les questions qui sont posées, les points de vue différents. Et je soulignerai particulièrement le jeu des actrices. Il y a Jessie Buckley, Rooney Mara et Claire Foy en particulier qui ressortent de là. Et non, si vous avez une chance d'aller voir soit en version originale ou en version originale avec sous-titres, ça vaut vraiment la peine. Et j'arrête d'en parler. C'était ma troisième intervention là-dessus. On a trouvé les équipes qui vont aller au Super Bowl, les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City. Alors, c'est les Chiefs que je prends, c'est sûr.
Pouvez-vous rappeler la date du Super Bowl?
C'est dimanche, pas qui s'en vient, l'autre après. Parce qu'ils veulent que Patrick Mahomes guérisse sa cheville. Non, ça n'a aucun rapport. Mais j'espère qu'il va prendre le temps pour guérir sa cheville. Francine, on surveille quoi dans notre émission d'aujourd'hui?
Aujourd'hui, notre émission, comme à l'habitude, elle est bien remplie. Notre chroniqueur historien va nous parler de Washington. En fait, il va nous parler du fait que ça a été une ville qui a été bâtie de toutes pièces pour devenir une capitale, comme on en fait encore aujourd'hui hein, dans certains pays où on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Pour ma part, je vais faire un petit portrait numérique, donc je vous résume le net tendance qui est sorti à propos de l'année 2022. Je vous rappelle que c'est les portraits de net tendance sont des portraits de notre consommation numérique. Je vais vous parler d'une expérience qui a été faite par le Gros Laboratoire, qui est une émission à la télé.
Ah oui, j'aime
ça, pour cette émission. Oui, l'intelligence artificielle pour affronter ses phobies. Et vous avez deux invités.
J'ai une invitée qui a été porte-drapeau aux Jeux paralympiques de Tokyo tout récemment, Priscilla Gagné, qui est judoka, qui ne voit pas, mais qui, semble-t-il, ne s'en laisse pas imposer pour autant. Alors, on va jaser avec elle. Elle revient d'un voyage où elle a gagné une médaille de bronze tout récemment. On va parler de ça. Et je vais parler avec Alexandre Saint-Arnaud. Alexandre Saint-Arnaud, c'est maintenant le porte-parole pour la Fondation des aveugles du Québec. C'est un ami de Steve, dont j'oublie le nom. Je m'excuse. Ça va me revenir plus tard.
C'est l'adjoint à la programmation, M.
Oui,
Saint-Arnaud.
C'est ça, de la Fondation. On va parler de leur programmation. Puis on va être pressé tout le temps, comme ça arrive souvent les vendredis. Alors, lançons donc la musique.
Aimons-nous quand même, aimons-nous jour après jour. Aimons-nous quand même, aimons-nous malgré l'amour. Aimons-nous de rage, aimons-nous mais sans pitié, aimons-nous en cage, aimons-nous sans amitié. 2000 ans de haine n'ont rien changé à l'amour. Pour briser nos chaînes, sonnent canons et tambours. C'est l'amour qui gronde.
Amour avance à grands pas,
détruira le monde.
Par amour du combat,
je t'aime, tu m'aimes, il est. Nous vous aimons, vous nous aimez, il m'aime.
La mort unie sans retour.
Aimons-nous, je t'aime.
Je te tuerai, mon amour. L'amour nous préserve des remords de nos tueries.
On tue sans réserve par amour de sa patrie.
On vit sans histoire. Lorsque l'on vit sans aimer, l'amour c'est la gloire, la puissance c'est l'amitié. Aimons sans contrainte,
aimons-nous comme il se doit.
Resserrons l'étreinte
qui nous étouffera de joie. Je m'aime, tu t'aimes, il sait. Nous nous aimons, vous vous aimez, il sait.
Poursuivant la tradition des chansons en duo, c'était Marc Hervieux, Michel Rivard qui chantait « Aimons-nous ».
De Yvon Deschamps.
Exact.
Français. Très belle chanson. Je commence, non pas avec une une, parce que je sais que ça s'appelle les unes, mais parfois on va fouiller à l'intérieur aussi.
On va d'un deux.
On est rendu dans le B, je crois.
Ah, B3. Mon Dieu, c'est profond.
Culture, le devoir. C'est la censure d'un livre d'Élise Gravel,
oh, oui,
qui est condamnée au Salon Bleu. Alors, Élise Gravel, c'est cette auteure prolifique, auteure jeunesse. Son livre « Pink, Blue and You » est censuré dans certaines écoles aux États-Unis parce que, évidemment, il aborde l'inclusion, la tolérance, le respect de la diversité et des orientations sexuelles et de genre.
C'est tellement épouvantable.
C'est assez épouvantable, en effet. Alors, évidemment, vous comprenez tous qu'on est dans l'ironie totale,
oui,
mais
oui,
ce n'est pas ironique la suite de cette nouvelle. La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a déposé hier une motion qui stipule que ce genre de censure n'a pas sa place ni dans l'art, ni dans la démocratie. Et ça a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Et maintenant, ben, on veut faire circuler cette motion et, entre autres, l'envoyer au gouverneur de la Floride, Ron DeSantis.
Oh, j'ai tellement... Oh oui, j'aimerais ça qu'il fasse.
On espère.
Puis on reparlera des... s'il y a des retombées là-dessus. Mais j'ai même entendu, il semblerait même qu'il y a des internautes qui, du Québec qui sont contre ce livre-là. Là, je suis tombé un peu sur le dos quand j'ai entendu ça.
Mais c'est parce que c'est là qu'on est rendu dans les écoles, n'est-ce pas?
Oh.
Ah oui, voilà, voilà. Du côté du Journal de Montréal, j'ai retenu en manchette une histoire du bureau d'enquête qui porte sur des mafieux qui sont devenus des vedettes du web. Le bureau d'enquête, Félix Séguin et Maude Boutet, les deux journalistes de ce bureau, se sont penchés sur l'utilisation des réseaux sociaux par des mafieux et entre autres par deux bébés boss de la mafia, comme ils les nomment. Alors, ce sont deux Italiens qui sont très actifs dans la région de Naples au sein de la Camorra, qui est le groupe qui domine toujours. C'est une organisation criminelle extrêmement puissante et qui génère des revenus de 6 milliards de dollars canadiens par année. Elle y contrôle notamment le ramassage des ordures et plusieurs autres contrats publics. Et il y a deux bébés boss, justement, qui s'affichent sur TikTok, Instagram, etc., et qui montrent leur vie luxueuse. Et ça sert aussi à illustrer jusqu'à quel point ils sont puissants. Mais en contrepartie, on apprend dans cet article que la police les traque grâce à la technologie et la police italienne utilise des équipements à la fine pointe qui leur permet de suivre leurs déplacements pas mal tout le temps. Et on dit dans cet article que le Canada est à la traîne et qu'en fait, il n'y a qu'en Italie qu'on a vraiment une stratégie vraiment bien organisée et même quand on compare l'Italie avec les autres pays européens. Du côté de la presse plus maintenant, il y a plusieurs nouvelles en une. Je vous mentionne tout simplement à propos, je dirais, de la suite à la COVID, où on est toujours un peu dans la COVID, mais dans la grande période de COVID, que Medicago ferme ses portes. Alors, on se rappellera que cette biopharmaceutique voulait développer un vaccin
ouais,
entièrement québécois. Ils ont rencontré toutes sortes d'obstacles sur leur chemin, dû entre autres au fait qu'il y avait une cigarettière qui était quand même à la hauteur de 20% actionnaire de la compagnie. Il y a aussi un reportage intéressant sur quand une fonctionnaire joue les super détectives.
Hey, oui, hein.
On raconte l'histoire de Victoria Villalba qui arrive ici, elle était en Ontario et elle n'a pas d'emploi. Elle arrive au Québec et elle s'inscrit sur Je contribue. Vous vous rappelez de cette plateforme qui nous incitait évidemment à aller travailler dans le milieu de la santé ou autrement. Et elle a à ce moment-là un emploi dans un CIUS et elle se rend compte tout à coup que souvent, on attribue des mots de passe, on garde les mots de passe et ça permet donc à des fonctionnaires de rentrer des informations qui sont fausses et ainsi de créer de faux passeports vaccinaux. Alors, c'est extrêmement intéressant. Maintenant, elle en parle puisqu'elle ne travaille plus comme telle pour le CIUS en question.
Et on n'utilise plus les passeports vaccinaux non plus.
Ben, de toute façon, c'est un peu périmé pour le moment et on espère que ça le
sera. On espère que c'est pour toujours
aussi.
Oui.
Et enfin, je vais vous passer le flambeau, comme on dit. Ce matin, quand la Presse Plus a fait sa mise à jour, elle a publié une lettre qui appuie Amira El-Gawabi. Et cette lettre est signée, entre autres, par Charles Taylor, Julius Gray, donc 30 Québécois qui appuient Mme El-Gawabi. Et je vous laisse la suite parce que je sais que vous vous êtes intéressé à cette histoire.
En fait, ce qui m'a intéressé particulièrement dans cette histoire, c'est les différences de points de vue. Et ce que je vais vous proposer, c'est deux points de vue qui sont très bien documentés par des personnes que je lis régulièrement. La première, c'est dans la presse plus. C'est sous la plume de Maxime Pedneau-Jobin. Maxime Pedneau-Jobin, c'est l'ancien maire de Gatineau. Et il propose une réflexion qui s'appelle « Nos souffrances la font vomir ». Et il dit « C'est toute notre histoire qui nous pousse aujourd'hui à vouloir éloigner de l'État toutes les religions, et ce, dans les faits comme dans les apparences. » En 1961, dans un Québec français à 90%, un francophone unilingue gagnait la moitié du salaire d'un anglophone unilingue. Oui, la moitié. Et il continue son argumentation. C'est très documenté, c'est intéressant. Ça donne un point de vue sur cette situation-là. Et un autre point de vue, très presque diamétralement opposé, c'est sous la plume de Thomas Mulcair, dans le Journal de Montréal. Il est temps d'accepter les excuses. Il fait un peu l'historique de cette histoire-là et il termine en disant vu qu'elle a déposé des excuses franches et claires, peut-être qu'on devrait donner la chance au coureur et lui laisser le temps de commencer son travail. Ça fait un peu le tour de cette question-là. Et on s'en va du côté de l'Estrie. Je m'excuse, Monique, avez-vous déménagé dernièrement, vous?
Non, je ne retournerai pas en Outaouais.
Oh, vous avez déjà été dans l'Outaouais?
Oui, j'ai habité à Ottawa pendant 4 ans.
Ah, mon Dieu, votre visage me disait quelque chose. J'ai habité là pendant 8 ans.
Je ne pense pas qu'on s'est rencontrés à ce moment-là, cher ami. Alors aujourd'hui, je vais commencer par vous parler de la maison Gilles Carle, qui a été créée, on le sait, grâce à la détermination de Chloé Sainte-Marie, qui a soutenu, en fait, assidûment Gilles Carle, qui est décédé à 81 ans en 2009 de la maladie de Parkinson. Alors maintenant, dotée de 2 chambres supplémentaires et d'air commune plus spacieuse, entre autres améliorations, eh bien la maison Gilles Carle peut désormais soutenir 50% de personnes en plus, soit 12 personnes le jour et 6 la nuit, pour mieux répondre à la demande croissante des services de répit, d'hébergement et de soutien psychosocial. L'établissement, faut-il le dire, est situé à Cowansville et c'est le seul du genre pour les régions de l'Estrie, de la Montérégie et du centre du Québec. Mmh,
oui.
Cette maison, Gilles Carle, est rattachée à l'organisme Regroupement soutien aux aidants de Brome-Missisquoi et elle offre des services de soutien et de répit aux personnes proches aidantes prenant soin d'un adulte souffrant d'une incapacité temporaire ou permanente à la suite d'une maladie, d'un handicap ou simplement à cause de l'âge avancé. Si les services offerts à la maison Gilles Carle ont été longtemps limités à 3 jours et 2 nuits par semaine, eh bien c'est formidable. Maintenant, ils seront désormais en continu 24 heures par jour et tous les jours de la semaine.
C'est très appréciable et apprécié parce que moi j'ai été un petit peu aidant naturel, puis à un moment donné, là, les énergies, ça devient très difficile.
Exactement, oui. On a tous vécu ça un peu. Mm-hmm. Alors sur le plan de la santé, une importante désuétude immobilière, ça c'est pas très réjouissant, architecturale et électromécanique, force le CIUS de l'Estrie CHUS à investir plus de 12 millions supplémentaires dans un projet d'ajout d'équipement en radio-oncologie à l'hôpital Fleurimont. À long terme, l'établissement note que ces travaux pourront permettre d'ajouter de plus en plus d'équipements modernes. À l'été 2021, l'analyse immobilière pour l'ajout d'un nouvel accélérateur en oncologie et le remplacement futur de 4 autres accélérateurs a démontré qu'un ajout important d'infrastructures électromécaniques, là on parle de ventilation, de climatisation, était nécessaire pour le bon fonctionnement de tous les équipements. L'ajout des infrastructures électromécaniques a donc été inclus au projet. Soulignons que cette désuétude immobilière est causée par l'évolution de la pratique médicale, l'évolution technologique des équipements médicaux spécialisés et des normes du bâtiment qui sont beaucoup plus élevées en 2023 que lors de la construction du bâtiment. Alors, on peut imaginer que tous les hôpitaux du Québec sont dans la même situation.
Et malheureusement, oui, hein?
je termine en m'intéressant aux infrastructures sportives hivernales. Eh bien, l'ouverture du ministre de l'Économie du Québec, et oui, nous parlons encore de Pierre Fitzgibbon, a accordé des millions aux stations de ski pour l'achat de canons à neige. Et c'est une véritable bouffée d'air frais en Estrie. Les stations de ski, on le sait, ont la vie dure avec les changements climatiques. Assurer la pérennité d'une telle entreprise en misant sur l'enneigement naturel est inconcevable. L'investissement dans des canons à neige est donc incontournable, mais les coûts des infrastructures dont les systèmes d'enneigement sont exponentiels. Alors, par exemple, ajouter des tuyaux et des canons peut coûter trois quarts de million par piste. Si on ajoute l'automatisation, ben ça peut monter jusqu'à $1 million. Alors, on sait que les centres de ski n'ont pas qu'une piste. Alors, l'Association des stations de ski du Québec a produit un rapport qui montre que ses membres auraient besoin de 65 millions pour renouveler sa flotte de canons à neige. Les représentants des stations de ski interviewés pour cet article sont unanimes. Chaque dollar investi par Québec pour assurer la pérennité de cette industrie de premier plan engendrera des retombées positives dans chacune des régions. Si on peut garantir du ski le 26 décembre, l'immobilier va suivre et quand la construction va, eh bien, on le sait, l'économie va aussi. Alors voilà, c'était vos nouvelles de l'Estrie.
Oui, et puis je lisais qu'il fait froid en Estrie aussi.
Oui.
Je pense qu'il y a des montagnes de ski qui offrent des cours qui ne seront pas offerts demain, je pense, à Bromont, entre autres.
Ben écoutez, ça va être tellement froid avec le facteur vent, refroidissement, je pense que c'est tout à fait sage. Vous avez marché ce matin, je suis sortie, j'ai été déneigée un peu. Je peux vous dire que après une demi-heure, mes petits doigts étaient gelés.
Ben, un gros merci, Monique, et oui. On se reparle la semaine prochaine.
Oui, je serai là.
Pour continuer sur la température et le froid, j'ai déjà vécu dans l'Outaouais, on l'a mentionné tantôt. Le canal Rideau va ouvrir en fin de semaine. Il n'avait pas ouvert jusqu'à présent à cause de la douceur de la température. Alors, il va ouvrir en fin de semaine. Je ne sais pas s'il va ouvrir demain, mais quand j'ai vécu là-bas, il y avait des journées très froides, puis on s'en mitouflait, puis on allait patiner. C'est vraiment, vraiment agréable. C'est un peu la même chose du côté de Québec. Le lancement du carnaval est remis à demain parce qu'il fait trop frette ce soir. Alors, donc, c'est pour préserver un petit peu les joues et les nez. Et mon épouse me disait, hey, allez coucher au palais de glace à cette température comme ça, ça doit pas être chaud. Même si je pense que c'est organisé en conséquence. Alors, on prend une petite pause. Au retour, je parle avec Priscilla Gagné, qui est une judoka qui a été en évidence aux Paralympiques de Tokyo. Et on va parler de la ville de Washington avec notre ami Marcel Gravel. Marcel Ducœur, pardon. Donc, on prend une petite pause et on se reparle dans quelques instants.
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Yvan Deslauriers et Francine Forget.
Faut qu'on s'y remette. cette nuit. C'est une page blanche, cœur sur la main, larmes dans nos hanches. Cette nuit, c'est une page blanche. Refaire le monde. Ta vie, sans remettre à nous, sans en remettre une couche. Pour que nos cœurs se remettent à battre, pour que nos cœurs se remettent à battre. Cette nuit, c'est une page blanche, cœur sur la main, l'âme dans nos
Karine Lagueuil, sa chanson « Page blanche », que je devrais laisser finir avant de commencer à parler, mais voilà. C'est un poète.
Voilà. Alors, il semble que Karine Lagueuil, c'est une comédienne et chanteuse. Donc, très beau choix. Je me tourne vers la chronique « Au-delà des limites ». Et aujourd'hui, je vais parler avec Priscilla Gagné. Priscilla Gagné, elle est membre de l'équipe canadienne paralympique en judo. Elle a été médaille d'argent et porte-drapeau de l'équipe canadienne aux Jeux paralympiques de Tokyo. Elle a de nombreuses réalisations, dont la semaine dernière, et elle considère plusieurs autres réalisations pour le futur. On va parler de tout ça. Bonjour Priscilla Gagné.
Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui?
Ça va très bien, merci. Et vous, c'était quoi la... Est-ce qu'il y a une grosse différence de température entre le Portugal et Montréal?
Pour dire que oui.
Ah oui, à ce point-là?
Je crois que la température là-bas, on était à peu près 11 à 13 durant la journée avec un grand soleil. Puis là, je pense, avec le vent puis tout, on est rendu à moins 35.
Oui. Bon, alors oui, il y a une différence. Maintenant, vous étiez au Portugal, vous étiez à Almada au Portugal lors d'un grand prix de parajudo et vous avez remporté la médaille de bronze. Et j'ai vu dans votre parcours, vous avez remporté des médailles d'or, d'argent, de bronze dans plusieurs compétitions importantes internationales. Est-ce qu'il y a des médailles qui sont plus satisfaisantes que d'autres? Est-ce que, par exemple, une médaille de bronze, quand vous gagnez le bronze, est-ce que vous êtes très satisfaite versus une médaille d'argent où vous avez perdu le combat, mais vous avez gagné la médaille d'argent?
Ça dépend si c'est avec qui que j'ai gagné ou perdu. Pour exemple, je crois que les plus spéciaux moments de ma vie, c'est quand j'ai quote, gagné la médaille d'argent, même si ça veut dire que j'ai perdu le combat pour le or, parce que c'était à Tokyo, puis c'était tellement un parcours dur avec le COVID et les restrictions, surtout avec l'équipe Tara. Alors, pour cette raison-là, et la fille avec qui j'ai perdu est maintenant déclassée, fait qu'elle peut voir très bien. Puis elle complète avec le judo régulier maintenant, puis elle fait très bien.
Ah.
Puis fait pour dire que je suis pas trop déçue d'avoir perdu contre elle non plus. Là,
Vous avez presque une médaille d'or, en fait.
C'était très, très proche.
Très, très, très proche. D'accord.
Oui, je le sentais.
J'ai regardé plusieurs vidéos sur vos combats. J'ai regardé des entrevues que vous avez données. Et ce qui me fascine, c'est votre amour des sports de combat. D'où ça vient, ça? Vous avez fait de la lutte, vous avez fait du judo. Oui. D'où ça vient ce goût pour des sports de combat?
Tu sais, je crois que j'étais née avec... un esprit de combattif.
Oui.
J'avais un grand frère, j'ai un grand frère, puis on faisait tout le temps de lutte ensemble, puis quand j'étais tout petit, je voulais toujours faire qu'est-ce que les autres enfants faisaient, récréation, l'équipement, ça courait, ça jouait, mais les professeurs ne me laissaient pas, je voulais participer dans les sports comme le basket ou la course. Mm-hmm. Mais ils ne me laissaient pas, ils disaient c'était trop dangereux, non. Fait que là, quand j'ai découvert que j'étais à l'école pour les non-voyants, oui. À la 9e année, secondaire 4 probablement, j'imagine, puis ou 3, en tout cas, puis j'avais 14 ans, puis j'ai découvert la lutte, puis je me combattais contre des personnes voyantes, puis j'étais aussi bonne que eux. Puis là, la karaté, j'aimais ça parce que je pouvais donner des coups, on fait des coups, on fait des ouais. mots, puis c'était le fun. Puis, mais là, il n'y a pas de lutte en para-judo.
Oui, oui.
Surtout pas de karaté pour les non-voyants en para-judo.
Bien sûr.
Fait qu'en para-olympique, excuse. Fait que j'ai changé pour le judo. Puis ça m'a attirée parce que c'est un peu comme la lutte, excepté il y a des clés de bras et des étranglements. Fait que des soumissions. Puis ça m'a vraiment très inspirée.
Et comment vous avez été découverte? Oups, j'ai failli dire découvert. Comment vous avez été découverte pour votre grand talent en judo?
En fait, c'était à l'école secondaire pour les non-voyants qu'il y avait quelqu'un sur l'équipe de lutte avec moi qui faisait aussi le judo, puis parlait avec son coach de judo. Puis moi, je voulais rien savoir parce que j'étais déjà très bonne en lutte, puis ça me tentait pas d'apprendre un nouvel sport dans ça. J'avais 15 ans. Fait que à peu près 8 ans plus tard, j'avais 23 ans, j'ai rencontré un des autres athlètes de judo dans un aéroport. C'était vraiment un flou. Puis je lui ai demandé s'il cherchait encore des gens pour faire la para-judo, puis il m'a dit que oui. Il m'a donné le numéro du courriel de son coach, puis le reste, c'est juste ça s'est développé de là.
Donc, j'ai vu que pour vous, participer aux Jeux olympiques, c'était un rêve depuis que vous étiez tout petite.
Oui, je ne savais pas qu'il existait la paralympique, surtout pas pour les non-voyants. Alors, moi, je rêvais d'être dans les Olympiques comme Michael Johnson, qui a fait la course avec les souliers d'or.
Oui, oui, oui.
Puis ça m'a tellement mis un feu en moi que je voulais tellement. J'ai dit, ah, ça, je peux faire comme toutes les autres. Moi, là, je peux courir. Mes yeux ne fonctionnent pas, mais je peux courir. T'sais? Puis là, je courais à l'école, je courais aller à la maison. Là. Puis je checkais le temps tout le temps, puis je donnais pas de raison d'excuse à plus lent s'il y avait des autos, un arrêt ou ça comptait pas. Là. Je me donnais aucune raison. Puis ça a juste resté en moi toujours, même si je travaillais pour Canadian Tire, je faisais des travaux dans des affaires que j'ai pas étudiées, mais c'était toujours en arrière de c'était toujours dans mon cœur en fait. Puis j'ai jamais lâché la rêve. Puis elle m'a amené, ça a juste tout débloqué. Puis le grand rêve s'est réalisé en 2016.
Puis là, le rêve s'est matérialisé en 2016 à Rio. Mais parlons de Tokyo. Vous êtes choisi pour être porte-drapeau. C'est un honneur extraordinaire. Mais vous rentrez dans un stade à Tokyo où il y a la COVID. Donc, il n'y a personne dans le stade. Racontez-nous.
Oui, ça, c'était tellement un grand honneur pour être nommé le porte-drapeau pour l'équipe paralympique. Puis c'était un peu dans le temps qu'ils découvrent tragiquement tous les enfants qui étaient tués puis enterrés. Puis ça commençait dans... Ça, c'était à peu près le temps que j'ai eu les nouvelles que je n'étais pas drapeau pour Canada.
Oui, oui, oui.
Alors, faut vraiment là que je me cherche dans mon cœur. Ça veut dire quoi, ça, pour moi, pour être porte-drapeau pour Canada dans ce contexte-là? Puis, mais l'équipe paralympique, c'était tellement... On a eu tellement de... restrictions injustes comparées avec l'équipe olympique. Alors, puis on avait tellement discuté, même aller magasiner, aller dans les magasins. Moi, je suis non-voyant, alors ça prend un guide, mais on n'avait pas le droit d'être en dedans de 6 pieds d'un et l'autre. Puis je me suis fait demander pour sortir d'un magasin plusieurs fois.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, c'est tellement... c'était pas juste moi qui a survécu ça, c'était plein d'autres athlètes sur l'équipe Para qui ont eu similairement des expériences. Alors, pour être nommé porte-drapeau, pour moi, c'était pour représenter cette population-là de Canada. Puis c'était vraiment les Paralympiennes que je représentais.
Wow.
Puis parce que c'était tellement un parcours dur, puis il y avait toutes les restrictions, même à Tokyo, on avait juste le droit d'avoir une porte-drapeau, un guide, un docteur, un homme de sécurité. Puis la chef de mission, c'était toute la délégation pour Canada aux cérémonies d'ouverture. Fait que dans mon cœur, je marchais avec tout le monde. Tu sais, j'imaginais dans ma tête toute l'équipe en arrière de moi qui criait, qui sautait, qui tapait les mains, qui fait toutes les affaires, là, mais je marchais avec eux dans mon cœur qui faisaient la même chose. Fait que je marchais pas juste en représentant eux autres, mais j'ai marché avec eux. On a marché tous ensemble dans mon cœur, puis j'ai tout expérimenté ça pour eux en même temps. Fait que c'était vraiment un grand, grand moment pour moi puis pour Canada.
En deux mots, parce que je veux passer un peu de temps sur vos cours d'autodéfense, est-ce que vous vous préparez pour les Paralympiques de Paris en 2024?
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Je suis présentement numéro un dans le World Ranking.
Okay.
Puis si je peux rester dans le top 4, ça va être bon, mais c'est sûr que je continue le parcours. On fait pas mal une compétition par mois, quasiment, jusqu'à Paris.
Jusqu'à là-bas. On va vous suivre, c'est sûr. Maintenant, en quelques mots pour terminer, parlez-nous des cours d'autodéfense que vous donnez.
Oui, en fait, ça va être ma première cours que j'enseigne, l'autodéfense, pour ceux qui sont non-voyants ou semi-voyants. Et ça m'a vraiment... Parce que moi, je fais le judo, le combat. Moi, ça vient naturellement. Si quelqu'un me prend le bras quand je n'ai pas d'assistance ou me défendre, je suis toujours prêt. Mais il y a beaucoup de monde qui n'ont jamais fait de judo, ils n'ont jamais fait de lutte, puis c'est pas en eux pour vraiment se défendre. Puis je veux donner la confiance aux gens, aux familles aussi, des gens qui sont non-voyants puis semi-voyants, pour leur montrer que tu n'as pas besoin d'être un judoka paralympien pour te défendre puis pour te porter avec la confiance. Puis comment utiliser ta voix, ta posture, puis même juste connaître tes alentours un peu, comment ça peut t'aider. En plus, montrer quelques techniques pour se défendre ou se protéger. Puis j'aurais aimé ça, avoir ça quand j'étais adolescent, puis je crois que mes parents y auraient aimé ça aussi. Ouais, c'est ça, j'ai très excité, ça va être les samedis après-midi, la première, c'est samedi qui s'en vient, demain. Puis, mais je vais en faire plein là. Je vais en continuer à en faire durant l'année, en anglais puis en français.
C'était vraiment une conversation très inspirante. Je vous souhaite le meilleur pour votre premier cours d'autodéfense demain. Et on va suivre votre parcours vers Paris l'année prochaine. Merci beaucoup, Priscilla Gagné, pour cette conversation.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci. Bonne journée.
Bonjour, Marcel Dugas.
Bonjour.
Alors, j'espère que vous êtes bien au chaud pour faire votre chronique.
Ah, je vous parle depuis l'intérieur.
Depuis l'intérieur. OK, voilà. Puis il n'y a pas de panne, rien. Puis vous utilisez le chauffage à bon escient.
Tout à fait. J'essaie de me tenir à 20,5.
Et puis, c'est bon,
puis
c'est
bon. Quelle température il fait à Washington?
Ah, c'est une bonne question. J'ai pas pensé de regarder.
Bien, pendant que vous faites votre chronique, je vais regarder ça.
C'est notre thème, vous avez compris, aujourd'hui, on fait comme toutes les radios de ce matin, on parle température, mais heureusement, vous êtes là, on va parler d'autre chose. Washington, une capitale qui a été bâtie de toutes pièces, comme on en fait aujourd'hui dans nos temps modernes, on est bien intéressé à ce que vous nous racontiez cette histoire.
Oui, mais on assiste en ce moment à un mouvement à travers le globe, il y a plusieurs pays qui ont ou vont changer de capitale. Les amateurs de quiz qui nous écoutent savent que si on vous demande quelle est la capitale du Burundi, il ne faut plus répondre Bujumbura, qui était la capitale depuis l'indépendance. Gitega est maintenant la capitale politique du Burundi. Et il y a deux pays, pas les moindres, l'Égypte et l'Indonésie, qui sont présentement en train de se construire des capitales toutes neuves, un peu comme les États-Unis d'Amérique l'ont fait au 18e siècle, lorsqu'on a créé Washington spécifiquement pour en faire le siège du gouvernement.
Marcel, je m'excuse, est-ce que vous savez ce qui les motive tout à coup?
Souvent, c'est l'encombrement des capitales existantes. Dans le cas du Caire, entre autres, qui est la capitale de l'Égypte, c'est la même chose à Jakarta en Indonésie. C'est des villes qui ont beaucoup, beaucoup grossi et on commence à avoir de la difficulté à gérer tout ce que ça représente en termes de trafic, en termes de congestion. Et c'est des villes qui n'avaient pas nécessairement été pensées pour servir de capitale. Donc là, on se bâtit des capitales sur mesure, si vous voulez. Donc, je vous disais que la première capitale des États-Unis, c'est Philadelphie, en Pennsylvanie. C'est là où se sont réunis, avant même la naissance du pays, ce qu'on a appelé les congrès continentaux, ces assemblées de délégués pro-indépendance des différentes colonies. C'est à Philadelphie qu'on signe la déclaration d'indépendance en 1776, et c'est là que va survenir une quasi-insurrection en 1783. La guerre d'indépendance était à toute fin utile terminée à ce moment-là, il n'y avait plus de combats. Il ne restait qu'à se mettre d'accord sur les termes de l'entente entre la Grande-Bretagne et les nouveaux États-Unis. Il y a quelques centaines de soldats qui avaient participé à la guerre. Ils ont demandé à être payés les sommes qui leur étaient dues et ont décidé d'aller demander directement aux membres du Congrès d'y voir sur le champ. Et le gouvernement américain, qui n'avait pas de force de maintien de la paix sous ses ordres, a demandé aux autorités de la Pennsylvanie d'assurer sa protection et s'est fait dire non. Ils ont donc dû quitter Philadelphie un peu piteusement. Le pays a été dirigé notamment à partir de New York par la suite. Et on va décider que le meilleur choix pour installer la capitale permanente serait d'en créer une qui ne ferait partie d'aucun État et sur laquelle le Congrès aurait autorité. Le site à privilégier pour la nouvelle capitale a été le sujet de débat interminable. Déjà, on voyait des divisions entre politiciens du Nord et du Sud. Tout le monde voulait avoir la capitale dans son coin de pays. On a réussi à s'entendre en 1790. On a découpé un grand carré aux abords du fleuve Potomac sur des terres qui faisaient partie jusque-là des États du Maryland et de la Virginie. C'est devenu le district de Columbia. Et c'était considéré comme faisant partie du sud du pays à ce moment-là. C'était le nord du sud, si je peux dire, mais le sud quand même. Et à l'intérieur du district, dans une fourche du fleuve Potomac qui se trouvait sur le territoire cédé par le Maryland, on a construit la ville qui servirait de capitale au nouveau pays. La ville est nommée en l'honneur de George Washington, premier président. Il a participé au choix du site de sa ville, mais ne l'a pas baptisé lui-même. Ça, ce sont les commissaires chargés de superviser la construction qui auraient donné ce nom-là, alors que Washington était encore en exercice. Normalement, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, qu'on ne fait plus en toponymie, nommer une ville ou quoi que ce soit d'autre en l'honneur d'une personne vivante. On s'est permis dans ce cas-ci. Et le Congrès américain, pour sa part, a donné le nom de Columbia au district fédéral. Columbia, c'était dérivé du nom de Christophe Colomb, qui avait prétendument découvert l'Amérique. Et c'était à ce moment-là, Columbia, une représentation féminine, lyrique et poétique du pays. Si vous avez déjà vu l'oncle Sam, on l'a utilisé beaucoup sur des affiches de recrutement pendant les grandes guerres, cet homme tout habillé aux couleurs du drapeau américain avec son chapeau haut de forme. Il était un symbole national, une personnification de la nation, un peu comme Columbia l'était avant lui. Au départ, la ville de Washington et le district de Columbia, ce sont deux structures imbriquées l'une dans l'autre. La ville couvrait une petite partie du district qui était largement rural. Aujourd'hui, c'est une seule et même entité. On parle le plus souvent de Washington, D.C. Et les terres qui avaient été prélevées à la Virginie pour former le district de Columbia lui ont été rendues, ce qui fait que la capitale est entièrement située dans ce qui était autrefois le Maryland. La tâche de créer la nouvelle ville a été confiée à un ingénieur et architecte nommé Pierre-Charles L'Enfant. C'est un Parisien qui est venu en Amérique pour participer à la guerre d'indépendance, il a côtoyé George Washington pendant la guerre, et il va offrir ses services pour concevoir le plan de la ville. Et même s'il a été remercié assez tôt dans le projet, on a largement respecté son plan de faire la ville selon une grille orthogonale, donc des rues nord-sud et est-ouest qui se coupent à angle droit. On ajoutait aussi des rues obliques à travers ça. Et on a retenu, d'une part, le choix des sites faits par l'enfant pour la construction de la Maison-Blanche et du Capitole, le siège du Congrès, et d'autre part, son idée de relier les deux par une grande avenue, qui est l'avenue de la Pennsylvanie. Tout ça, ça faisait partie du plan l'enfant, comme on l'a appelé. On s'était donné 10 ans pour construire le siège du gouvernement. On a réussi, dans une certaine mesure, le Congrès et le président ont aménagé à Washington en 1800, mais dans des édifices qui n'étaient pas encore complétés. Et la Maison-Blanche et le Capitole seront tous les deux incendiés par les Britanniques lorsqu'ils ont pris Washington pendant la guerre de 1812. On a dû reconstruire presque entièrement les deux. Et en fait, le Capitole n'a pris la forme qu'on lui connaît avec son immense dôme que dans les années 1860. Un des grands paradoxes de la nation américaine, c'est que c'est un pays qui a été fondé en réaction à la tyrannie du roi d'Angleterre. On avait des grands idéaux de démocratie, de droits de l'homme. Les pères fondateurs disaient « Nous voulons vivre libres ou mourir ». Eh bien, cette nation est prise de liberté à traiter les femmes comme des citoyens de seconde zone, je ne suis même pas certain qu'il faut en parler au passé, a cherché à exterminer les Premières Nations, et il aura fallu une guerre qui a fait près d'un million de morts pour qu'on réussisse à y abolir l'esclavage. Et ce paradoxe-là est indissociable de la construction de Washington. Ayant été installée dans deux États où l'on pratiquait l'esclavage, elle sera une ville esclavagiste, vraiment jusqu'à la toute fin, jusqu'à la guerre de sécession. Et une bonne partie de la main-d'œuvre utilisée pour bâtir les édifices gouvernementaux des débuts de Washington, dont le Capitole et la Maison-Blanche, était constituée d'esclaves. On faisait le tour des plantations des environs, voir si les propriétaires n'avaient pas des hommes en trop. Et qui plus est, il y a au moins 9 présidents des États-Unis qui ont eu recours à des travailleurs esclaves dans la Maison-Blanche, que ce soit pour l'entretien, aux cuisines, le jardinage, etc. Et plusieurs d'entre eux ont amené leurs propres esclaves depuis leur plantation. C'était pratique, ils n'avaient pas besoin d'emmagasiner sur place, ils avaient déjà les leurs. Et il y a un deuxième paradoxe qui remonte à la création de la ville. Je vous le disais plus tôt, on voulait créer un district fédéral qui ne ferait partie d'aucun État et serait administré directement par le Congrès. On a omis de donner une représentation politique aux résidents et aux résidentes de Washington, et c'est une erreur qu'on n'a toujours pas corrigée aujourd'hui. On ne fait pas partie d'un État, on n'a pas de gouverneur, on n'a pas de chambre d'assemblée, on a un maire et un conseil municipal, mais seulement depuis les années 1970. On en avait eu à certaines périodes très brièvement, mais d'une manière vraiment structurée, ça fait un demi-siècle à peine. On a obtenu le droit de voter aux élections présidentielles en 1964. Avant ça, les gens de Washington ne votaient pas. Personne ne parle au nom des habitants de la capitale au Sénat. Et on a un représentant qu'on envoie à la Chambre des représentants qui n'a pas le droit de voter sur les différents projets de loi. En d'autres mots, ceux et celles qui habitent, je le mets en guillemets, la capitale du monde libre et démocratique vivent un déni de démocratie totale. Et, Francine, je termine là-dessus, il y a un mouvement en ce moment pour faire de Washington, D.C., le 51e État des États-Unis, que finalement il soit représenté sur la scène politique. Les démocrates sont pour, entre autres parce que c'est une terre extrêmement démocrate et ça leur garantirait 2 sénateurs additionnels. Les républicains s'y opposent bec et ongles parce que ça donnerait 2 sénateurs additionnels au Parti démocrate. Donc, ça pourrait être très long avant qu'on réussisse à voir la fumée blanche dans ce dossier-là.
Est-ce que je me trompe, Marcel, ou ça fait quand même quelques années qu'on a ces revendications-là qui n'aboutissent pas justement à cause des qu'il n'y a pas de consensus?
Oui, ben c'est très difficile, évidemment. Il y a beaucoup de gens qui sont très qui demeurent dans leurs idées préconçues, qui disent comment une ville pourrait être un État, mais en fait, Washington est plus populeuse que 2 des États américains en ce moment. Donc, c'est pas vraiment un argument qui est très, très fort. Je pense que c'est vraiment la question politique qui fait que ça avance pas et que ces gens-là ne sont toujours représentés nulle part.
Alors, merci, Marcel. Et pour terminer sur notre thématique de la journée, Washington, il fait autour de 0. Alors, c'est la température qu'on aura presque dimanche,
oui,
nous,
c'est vrai.
Parce qu'il faut garder le bon côté des choses. C'est que ce n'est que temporaire, cette froidure. À la semaine prochaine, Marcel, et portez-vous bien.
À la semaine prochaine.
Francine. Tweeter sans ses mains, qu'est-ce que ça veut dire?
Cette semaine, je vous rapporte une chronique, article de Chantal Guy qui a paru récemment dans un écran de La Presse Plus. Elle parle de l'écrivain, scénariste et dramaturge britannique Hanif Qureshi qui a perdu l'usage de ses mains. En fait, il est devenu tétraplégique après une chute en décembre dernier. Et depuis ce temps-là, il dicte des textes et des tweets à son entourage qu'il reposte sur Twitter principalement. Je le suis, moi, sur Twitter, Anif Kurichi. Et c'est intéressant parce que, ben, des fois, c'est un peu grinçant, mais disons qu'il y a un sens de l'humour dans les circonstances qui est assez exceptionnel. Il dit que aussi être dépendant, que ce soit momentané ou pour le reste de ses jours, c'est une grande, grande leçon d'humilité. Une bombe est tombée dans ma vie, mais cette bombe ébranle aussi les vies autour de moi, ma femme, mes enfants, mes amis. Ce qui semble arriver est que toutes mes relations sont en train d'être renégociées.
Oh.
Ça met tout le monde en colère, ça change tout. Il signe des textes, votre sans-main, et avoue être profondément touché par tous les messages d'encouragement qu'il reçoit de partout. Il faut dire que ce nom ne vous est peut-être pas familier, mais c'est un scénariste très reconnu. Il a entre autres travaillé avec le grand réalisateur Stefan Frears dans « My Beautiful Landrette ».
Oh oui, oui, oui. Voilà. Est-ce que vous le suiviez avant cet article-là?
Non, j'ai commencé à le suivre à ce moment-là. Je ne savais même pas qu'il avait été victime de cette très mauvaise chute qui a changé sa vie.
Je comprends. Au retour, on va parler avec Francine Forget, tiens, sur le portrait numérique des foyers québécois, la réalité virtuelle pour affronter ses phobies. Et je vais parler avec Alexandre Saint-Arnaud de la Fondation des aveugles du Québec. Alors, à tantôt!
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Mauvais temps, mauvais sort, on vit entre les temps morts. Mauvais signe, mauvais œil, mauvaise herbe que l'on cueille, mauvais pli, mauvaise passe, cri des amours qui se cassent. La neige fond, il fait soleil. Nouvelle chanson dans mes oreilles, nouvel âge, nouvel an, nouveau pour combien de temps, nouveau départ, changer le nom et le décor, juste pour qu'on y croit encore, nouveau char, nouvelle maison, nouvelle administration. Mauvais call, mauvais coup, la mort souffle dans mon cou. Mauvais sein, mauvaise foi, c'est toujours la dernière fois. Mauvaise langue, mauvais goût, mais l'amour à genoux. Les oies s'en vont, il fait soleil. Nouvelle chanson dans mes oreilles. Nouvel homme, nouveau né, nouveau pour combien d'années. Révolution dans la cité qui se réveille, tout a changé, tout est pareil. Nouveau monde, nouvelle saison, nouvelle administration.
Comme beaucoup de gens. Ça faisait longtemps que j'attendais une nouvelle chanson de Philippe B. Alors là, voilà. Nouvelle administration.
C'est ça que j'ai entendu hier. Je me disais, OK, voilà.
Ça faisait 6 ans, en fait, qu'il n'avait pas chanté une nouvelle chanson.
Oui, oui, oui. Puis là, tout d'un coup, il y en a plusieurs à nous présenter. Je me tourne vers Francine, qui va nous parler de technologie. Vous allez nous parler de... On va commencer par la réalité virtuelle pour affronter ses phobies. Il y a un lien avec une émission de télévision, je pense.
Oui, sur le site de Ici Explora, j'ai trouvé cet article fort intéressant. Et ça s'appuie sur une récente émission du Gros Laboratoire. Le Gros Laboratoire, c'est une émission qui est animée par Jean-René Dufort, qui, il faut se le rappeler, est biochimiste. Hein? Il est diplômé de l'Université de Sherbrooke. Et Marie-Pierre Elie. Marie-Pierre Elie, elle est journaliste scientifique.
Oui, ils font une belle combinaison. C'est une belle équipe, ça.
Oui, mais c'est intéressant parce que c'est la science qui est abordée, mais il y a quand même un peu d'humour à travers tout ça. C'est plus léger. Alors, ça nous permet justement de continuer à l'écouter parce que des fois, c'est un petit peu aride quand on parle de science. C'est pas toujours facile, mais quand on trouve le bon véhicule, et je pense que si on l'a fait, ça nous permet de... Mais comme on disait dans le temps, de se coucher moins niaiseux, hein? C'est qu'il y a plusieurs choses qu'on découvre justement quand on n'est pas nécessairement scientifique.
Mettons que ça m'arrive souvent.
Alors moi, je n'ai pas visé personne en disant ça. Est-ce que la réalité virtuelle peut nous faire ressentir les mêmes émotions que si on la vivait pour vrai? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous, Yvan, d'être dans un spectacle ou une activité de réalité virtuelle et de ressentir cette émotion. Moi, ça m'est arrivé quand je suis allée voir Alexandro Iñárritu, Carnegie Arena, qui passait, rappelez-vous, à l'Arsenal,
pour lequel
il a gagné un Oscar, d'ailleurs. Et je rentre dans cette pièce et là, je vois qu'il y a une personne qui est là et je me demande, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Parce que je suis déjà tout équipée et tout ça et j'ai compris. C'est qu'à un moment donné, moi, j'étais tellement prise dans ce spectacle que j'allais m'asseoir à table avec des gens. Et elle m'a retenue pour pas que je m'assoie à
parce
table.
Parce qu'il n'y avait pas de table,
parce que je me serais... Ben oui, parce que moi, j'étais dans le vide et j'allais m'asseoir. Et c'était vraiment intéressant. Alors, dans le Gros Laboratoire, on a choisi une expérience avec des araignées. Alors, certaines personnes ont été confrontées à des vraies araignées et d'autres par les virtuels. Et après ça, ils ont regardé le dispositif électronique qui analysait la fréquence cardiaque des participants tout au long de l'expérience. Le rythme cardiaque de ceux qui étaient des cobayes qui étaient en réalité virtuelle augmentait quand même de 14 battements par minute, alors que les autres, en vrai, si on peut dire ainsi, c'était de 35 battements par minute. Mais donc, dans le cas de la réalité virtuelle, il y avait quand même quelque chose qui se produisait. Et cette micro-étude, en fait, dit, de laquelle on peut conclure, qu'on a parfois des émotions très fortes dans la réalité réelle, mais qu'elles peuvent être simulées par la réalité virtuelle. Et que dans les deux cas, même si ce n'est pas de même niveau, ça peut provoquer des phobies. Donc, si ça peut provoquer des phobies, ça veut dire qu'on peut peut-être aussi s'en servir pour essayer de maîtriser ces phobies. Et, chose curieuse, les cobayes qui n'ont pas réussi à toucher à des araignées dans le monde virtuel, alors que dans le monde réel, il touchait à ces araignées, mais évidemment, on a enregistré une nervosité qui était moindre. C'est intéressant de voir qu'à la suite de ça, on se dit qu'on peut s'en servir comme un outil thérapeutique. Parce que ce que ça illustre, c'est que ça peut tromper certains sens. Et ça peut tromper certains sens, on peut l'utiliser dans le cadre de différentes thérapies. Et d'ailleurs, sur les ondes de Canal M, moi, j'en avais déjà parlé dans l'émission d'Hélène Denis, de différentes thérapies qui, maintenant, utilisent la réalité virtuelle. Mais c'est sûr qu'il faut l'adapter aux différentes phobies, mais entre autres pour la peur des hauteurs. La peur des hauteurs où on peut simuler un saut en parachute.
Aïe.
C'est quand même assez... hein?
Oui.
Alors donc, avec la technologie, on arrive à désensibiliser et ça peut avoir un effet thérapeutique extraordinaire. En tout cas, on dit sûrement plus rapide que dans le cas de phobies qui peuvent être longues, je dirais, à résoudre. Mais c'est sûr qu'il faut vraiment que ça soit fait par des gens qui sont compétents, des professionnels, parce que dans le cas de phobie plus sévère, ben ça peut créer des crises de panique. Et je dis ceci parce qu'il y a des outils qui existent, qu'on peut utiliser librement, vous et moi, pour se simuler, pour se créer cet espace-là, mais il faut faire attention parce que ça peut être aussi très dangereux pour nous. Je vous parle maintenant du dernier Net Tendance qui a été réalisé à la fin de 2022, en fait au mois d'octobre. C'est toujours à peu près le même échantillonnage. On parle à peu près de 1000 personnes, entre 1000 et 1500 personnes. On essaie de voir, c'est toujours au Québec, le Net Tendance, c'est maintenant fait par l'Académie de la transformation numérique, qui est associé à l'Université Laval, et ils ont pris la relève du CEFRIO. Alors, on se rappelle qu'on a eu pendant longtemps un centre qui était vraiment spécialisé, bon, qu'on a fermé et on a redistribué ses tâches dans différents organismes, et l'Association de la transformation numérique s'occupe de ce portrait qu'on fait de façon ponctuelle et récurrente. Cette fois-ci, on a regardé l'adoption des appareils électroniques, le temps d'écran, les activités de visionnement en ligne et le téléphone intelligent, mais j'en parlerai pas parce que c'est le principal appareil utilisé pour naviguer sur Internet et ça ne se dément pas de chaque fois, et ce n'est pas seulement au Québec, c'est partout dans le monde, et c'est là qu'on voit que ceux qui ont cru à la mobilité au départ, c'est-à-dire des compagnies comme Samsung, qui avaient, quand ils sont arrivés sur le marché, je dirais, à être en concurrence avec des géants déjà qui occupaient un espace important comme Apple avec ses téléphones, ont misé juste parce que, évidemment, c'est l'appareil avec un grand L et un grand A. Si on regarde l'ensemble des appareils de divertissement, bien là, on se rend compte qu'à peu près, en tout cas, une forte proportion, si on exclut les 65 ans et plus, qui ont maintenant au moins 3 appareils, c'est-à-dire un ordinateur portable, une tablette électronique, un téléphone intelligent, et parfois, l'ordinateur portable bien, est remplacé par la télévision intelligente qui va nous permettre de jouer à des jeux vidéo, avec des jeux vidéo et d'utiliser des lecteurs multimédia en continu.
Moi, je coche 3 cases.
3 cases, non. C'est que quand on dit la majorité, c'est que dans l'échantillon, il y a 5% qui représentent les personnes âgées. Et dans ce 5%-là, on n'observe pas nécessairement le même nombre d'appareils, quoique, comme on a déjà vu, parce que ce n'est pas la première fois que je vous parle du Net Tendance, dans cette catégorie-là aussi, on utilise largement le téléphone. Les services payants de visionnement en ligne sont plus populaires que les services de télévision. Et ça, je le mentionne, je trouve ça un peu triste parce que on se tourne toujours, à chaque fois, il y a un pourcentage d'augmentation pour les Netflix, Amazon, Prime Video, Disney+, et ça ne se dément pas de sondage en sondage. Et du côté des plateformes payantes, on est prêt à investir davantage, surtout chez les adultes de 18 à 54 ans. Mm-hmm. Et ça, même il y a eu une légère décroissance, évidemment, dans l'utilisation depuis la fin de la pandémie, mais c'est marginal, on parle de moins de 2%. Et pour ce qui est de la télévision, bien évidemment, malgré tout ce qu'on fait d'extraordinaire, c'est du côté des séries qu'il faut se pencher. Et c'est peut-être un peu pour ça, quand on regarde pourquoi on investit tant dans des séries comme celle qu'a produit Xavier Dolan.
Bien sûr.
Ou parce qu'on sait que c'est exportable et que ça se vend
plus
facilement à l'international que des émissions produites ici.
Alors, on a une tendance forte.
On a une tendance forte et on ne lâche pas. pour la culture, ça cause, ça pose des questions.
Ça brasse les choses.
Ça brasse, oui.
Merci, Francine. Je me tourne vers... En fait, c'est un nouveau porte-parole, mais on l'a déjà eu à notre émission. C'est Alexandre Saint-Arnaud qui est adjoint à la programmation de la Fondation des aveugles du Québec. Mais avant de parler du calendrier d'hiver de printemps et de ski alpin, M. Saint-Arnaud, la dernière fois qu'on s'est parlé, vous n'étiez pas marié et maintenant vous l'êtes. Et quand vous vous mariez, vous, c'est comme... c'est un événement.
Effectivement, bonjour, ça va bien. En fait, c'est un événement, ça a été fait outre-mer, ça a été fait en France.
Donc, oui, et puis votre ami Steve Joseph y était.
Oui, effectivement, il est venu en France, dans les Pays de la Loire exactement. Donc ça a été un mariage haut en couleur et très festif.
Bon, ben, on va essayer de devenir amis. Comme ça, le prochain événement d'envergure dans votre vie, vous penserez à nous. Mais entre...
Je vais vous inviter.
C'est noté, c'est même enregistré, hein, on peut réutiliser ça.
Là, je m'excuse, Yvan, mais moi, je suis la co-animatrice, oui. Alors même si je ne vous parle pas directement, je fais partie de l'équipe, là, hein, vous vous rappelez ça?
C'est toujours noté.
D'accord, alors revenons maintenant à notre sujet, votre oui. calendrier d'hiver et de printemps de la Fondation oui. des aveugles du Québec.
Oui, en fait, nous autres, on est en plein dedans. En fait, nos activités ont commencé le 21 janvier dernier avec nos participants. C'est sûr qu'on a commencé avec une formation de ski alpin pour nos moniteurs en ski qui avait lieu le 14 janvier dernier. Maintenant, le calendrier avec nos participants est commencé. Donc, à tous les samedis du mois de janvier, février et mars, on est en ski alpin dans différentes montagnes du Québec. Donc, je sais que demain, il annonce très froid.
Oui.
Mais la Fondation, on va braver le froid et on va se rendre à Bromont parce qu'on a eu confirmation que la montagne était ouverte.
Ah oui, je pensais que... Ah oui, oui. Mais les écoles de ski à Bromont ne sont pas ouvertes d'après ce que j'ai lu.
Exactement.
Sauf la vente à l'air.
Exact. Nous, on est à part. On
Vous
est vraiment notre école. Oui, c'est ça. Donc, ça va être une descente et on va se réchauffer. Nous, à la Fondation de la sécurité, c'est la priorité. Donc, on va se réchauffer plus souvent, mais on va aller braver le froid demain. Puis, par la suite, à tous les samedis, on se déplace de montagne en montagne. Exemple, Morin Heights, Mont Habitant, Mont Gabriel, La Réserve, Montcalm, Vallée Bleue. Et on termine par un séjour au Mont-Tremblant.
Comment les gens peuvent suivre votre école de ski? Est-ce qu'il faut qu'ils réservent à l'avance?
Oui, en fait, nous, nos inscriptions se déroulent au mois de novembre pour pouvoir s'inscrire. Et puis, je vous avoue que c'est une activité de ski alpin qui est très, très populaire auprès de notre clientèle. Mm-hmm. Donc, les activités de ski, ce sont... ma collègue qui m'a remplacé me disait que ça a pris 3 jours. Et puis, les activités de ski étaient pratiquement complètes.
Wow!
Ouais, donc le ski est très populaire auprès de notre population.
Très impressionnant. Alors, parlez-nous ouais. maintenant de votre calendrier d'hiver et printemps.
Oui, donc pour ceux et celles qui ne font pas de ski alpin de notre clientèle, on offre un calendrier récréatif. Donc, tout ce qui est ski de fond. On est allé faire du ski de fond le 22 janvier dernier au Parc Maisonneuve. On a aussi qui s'en vient dans une semaine, c'est la pêche sur glace le 12 février, les glissades sur tube le 26 février. On a aussi un séjour pendant la semaine de relâche, donc de 3 jours au camp Edfi. Mmh. Et on continue avec la randonnée pédestre et la tyrolienne qui va avoir lieu le 19 mars. Et on finit toujours par la fameuse cabane à sucre qui va avoir lieu le 2 avril prochain.
D'accord. D'ailleurs, on va avoir l'occasion d'en reparler lors de notre prochaine rencontre dans un mois, sûrement.
OK, parfait. Bon, mais c'est génial.
Mais je suis impressionné par la pêche sur la glace, par exemple. Ça, je l'avais pas vu venir.
Ah non, hein? Non, mais nous, en fait, notre mission, c'est de briser le jeûnement chez les jeunes, puis je pense que de les rendre dans une... d'amener les jeunes dans une zone d'inconfort, puis d'amener les jeunes dans des activités qui, même nous, on serait pas capable de faire ou qu'on serait un peu réticents à faire, mais nous, on les emmène à dépasser leurs limites. Puis souvent, les activités comme de style la pêche sur la glace ou le ski alpin, c'est des activités qu'ils vont être hyper contents de faire parce qu'ils vont savoir dépasser comme nous, on peut le faire dans certaines activités aussi. Là.
Ben, un gros bravo. D'ailleurs, je vous remercie parce que c'est de avec Steve et des gens de votre fondation qu'on a pu parler à madame à qui j'ai parlé?
À Priscilla.
Tantôt. À Priscilla Gagné tantôt, oui. Donc, merci pour cette référence-là.
OK. Ben, c'est super. Merci à vous. Puis, je vais finir avec mon calendrier printanier.
Allez-y.
Donc, le calendrier printanier, ça se déroule la dernier samedi. Cette année, ça va être les samedis. Habituellement, c'était les dimanches, mais on a changé la journée. Donc, à tous les samedis du mois de mai, on fait du vélo tandem. Donc, on fait tous les pistes cyclables qu'il y a sur l'île de Montréal. Donc, on part de notre bureau administratif sur Bellechasse. Et puis, qui sait que Bellechasse fait tout le long de Saint-Laurent jusqu'à... Donc, on fait la piste cyclable Bellechasse, on fait le parc Maisonneuve. À tous les samedis, on change de piste cyclable pour se promener sur l'île de Montréal. Et puis, on finit par un événement qu'on invite les parents et tout de notre fondation. C'est le tour de l'île de Montréal. Donc, on finit en fête avec les jeunes.
Tour de l'île, j'imagine, qui est en tandem, évidemment.
Oui, tout à fait. Oui, toujours. Toujours.
Fantastique. Alors, évidemment, quand on va se reparler, ça là, j'ai dit une niaiserie, excusez-moi. Tout le monde rit dans le studio présentement. Donc, on va aller plus en profondeur de chacune de ces activités-là quand on va se reparler le mois prochain.
Oui, et puis, je ne veux pas vendre la peau de l'ours là, avant que l'avoir sorti, mais le calendrier estival, on va pouvoir en parler aussi. Puis, juste peut-être un petit scoop, on est en train peut-être de penser à un petit voyage à Boston pour l'été. Là. On est en train de réfléchir à ça. Donc, je ne vous en dis pas plus.
OK, mais je vais avoir des questions là-dessus, soyez-en sûr.
Oui, puis je vais vous inviter les deux.
J'y compte bien.
C'est noté. Alors, un gros merci à Alexandre Saint-Arnaud et au plaisir de se reparler.
Merci, au revoir.
Hein?
Oui, on a parlé à des gens fantastiques dans cette émission.
Et on a parlé beaucoup.
Oui.
Et on n'a pas fini.
Bon, on a à peine eu le temps de prendre son souffle, mais non, c'était jusqu'à présent vraiment une émission que j'ai beaucoup, à laquelle j'ai aimé beaucoup participer. J'espère qu'il y en ait de même pour vous, Francine et Mathieu.
On va réfléchir et puis on vous donnera notre réponse un peu plus tard.
Moi, on m'empêche de parler, donc...
Ça va.
Je vous le dirai en dehors des ondes.
Pourtant, vous avez un micro et vous avez tous les boutons pour activer votre micro, vous. Alors, ce qui n'est pas notre cas ici. Ah oui? Vous ne m'avez pas dit.
Non, je ne vous l'ai jamais dit.
C'est quel piton il faut poser.
Vous les avez.
Francine. Bon, alors, sérieusement, bon. Yvan, c'est toujours un plaisir.
Il y a une grosse fin de semaine qui commence, là.
Il y a une grosse fin de semaine qui commence. Il y a tellement d'événements du côté des galeries d'art et dans ce domaine-là. Écoutez, je vais vous parler de deux choses. La première, ça commence le vernissage est le 8 février et l'exposition commence le 9 février. Ça se poursuit jusqu'au 8 avril et c'est du Mouchel. Cette année, on est beaucoup dans les, hein, on est vraiment dans les dans nos grands, dans nos grands artistes québécois. C'est au Centre de design de l'UQAM qui est super bien organisé. C'est au 1440 Sanguinet. En fait, c'est sur pas tellement loin d'ici.
Dans la côte,
nous sommes. On ne se rend pas jusqu'à la côte, c'est plus bas. Et c'est pas tellement loin de notre studio là, qui est sur Sherbrooke-Est. Le Centre de design présente des œuvres d'Albert Dumouchel qui est un grand artiste là, qui a vécu au 20e siècle et décédé en 1971. C'est on le décrit comme un monument de l'art imprimé, puis il est considéré comme le père de la gravure au Québec parce qu'il a fait toutes sortes de choses, de taille douce aux fortes, etc. Et souvent, ce qui est intéressant, je ne sais pas si ce sera le cas dans cette exposition, c'est qu'au centre de design de l'UQAM, les choses sont tellement bien expliquées.
Ah oui.
Que ça nous amène à bien comprendre ce que nous voyons.
D'un point de vue visuel ou en audio guide ou les deux? Ou...
Ben, c'est souvent visuel. Audio guide, je ne me rappelle pas d'avoir utilisé un audio guide, mais quand même, justement, ça nous permet peut-être de nous concentrer sur le visuel plus que sur l'audio comme tel en regardant l'exposition. Et c'est très accessible aussi, moi, je trouve, du Mouchel, comparativement à beaucoup de choses qu'on voit présentement. Je vous parle aussi de quelque chose qui est complètement différent. Cette fois, oui, on passe dans l'audiovisuel plus, pour reprendre une expression de l'ancien temps. Je parle de Immersion Oasis et de son expérience transformée. Bon, alors, je ne sais pas si vous vous rappelez au début, quand ça a ouvert, c'est dans le Palais des Congrès comme tel, la section Oasis, elle est consacrée à on dit de la réalité virtuelle, mais justement, au début, quand j'en avais parlé, il y a trois salles, il y en avait une, on avait Alexandra Streleski, on avait une autre, David de Saint-Jacques, et une autre, c'était avec un YouTuber vidéaste qui est Émile Leroy, c'était en 2021, et c'était plus ou moins de la réalité virtuelle. Là, je n'ai pas vu le spectacle dont je vous parle, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, si les casques vous énervent, si vous n'aimez pas que vous ayez besoin d'un équipement trop lourd pour voir une exposition de ce genre, allez-y, parce que justement, c'est sans casque, cette exposition immersive. Je ne sais pas ce que ça donne.
Mystère.
Alors, allons-y, c'est déambulatoire, c'est donc dans le Palais des Congrès, mais cette fois-ci, ce n'est pas gratuit. On parle de 30 $ à peu près pour une famille, mais c'est des prix famille.
30 $ pour une famille?
Pour une famille, oui.
Famille oui. De quatre, j'imagine?
Généralement, c'est deux adultes et deux enfants.
Donc, 7,50 $ par personne environ.
Oui.
De mon côté, ce soir, je vais voir la pièce Gaspar Blues. Est-ce que vous avez vu Gaspar Blues à l'époque?
J'ai vu le film, puis j'ai tellement hâte de vous entendre en parler. J'espère que vous allez le retenir dans vos faits saillants.
Oui, j'ai vraiment hâte. J'ai fait exprès de ne pas revoir Gaspar Blues. Je sais que c'est l'histoire de la relation d'un père avec ses fils autour de la tenue d'un garage. Alors, j'ai vraiment, vraiment hâte. Donc, c'est ce soir. Et cette semaine, le jeudi, je vais voir un spectacle qui a été remis à cause de la COVID. C'est Lou Naza, c'est The Wild Coast of Ireland. C'est un groupe de musique acoustique irlandais. Ça a l'air vraiment niché, mon affaire. Hein? Mais je voulais en parler parce que ça se passe à la salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et si vous avez une chance d'aller voir un concert à cet endroit-là, n'hésitez pas. C'est vraiment extraordinaire parce que c'est relativement petit. C'est une ancienne chapelle. Hein? Donc, on voit encore les vitraux et tout.
C'est vrai.
Non seulement c'est beau à écouter, mais c'est beau à regarder.
Oui, oui. Et on souligne le départ de Mme Isolde Lagacé, hein, qui a été là pendant très longtemps, qui a dirigé cette salle.
Ah, ça, oui. Je ne savais. Oui, on en parlait cette semaine dans les journaux. Et en fin de semaine, c'est Igloofest. Moi, je n'irai pas à Igloofest, mais malgré la température, il semble qu'il fait chaud quand même à danser à plusieurs autour du même endroit. Les remerciements.
Oui, alors merci à vous, Yvan. Merci à Mathieu, qui, même s'il n'a pas le droit de parler, il est là quand même. Il y a une présence importante à cette émission.
Oui, parce qu'il faut quelqu'un pour peser sur les boutons.
À vous, chers auditeurs, et aussi à tous ceux qui ont participé avec nous à cette émission. Restez à l'écoute de Mission Vision à 11h et à 12h, Les Passions de Camille avec Camille Chai.
Et merci à vous, Francine, pour cette jolie avant-midi. On se donne rendez-vous entre nous et avec les auditeurs vendredi prochain, 9h30. au quotidien, 5e édition, au Canal M.